Temporium Radio, la culture autrement.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue, le Point G, épisode numéro 2 avec Gilles, évidemment. Gilles Pétel, bonjour.
Bonjour Richard.
Salut Gilles, ça va?
Très bien, et toi?
Bah, on est parti sur une émission un peu touchy là aujourd'hui.
Hein. On va essayer, oui, ça va nous changer du désir, ça sera peut-être un petit peu moins sexy. Mais comme je te disais, il y a un désir, au sens général du terme, là on va voir le désir religieux qui paraît très en forme en ce moment. Donc c'est peut-être l'occasion de dire deux, trois choses là-dessus.
Donc on peut dire le titre « La religion ».
Bah, j'ai pris ce titre parce que ça va nous amener à prendre quelques chemins, des distinctions, la foi, la superstition, la secte, la religion, l'État. Donc on va faire un libre parcours, on verra bien jusqu'où on peut aller.
Je disais touchy parce qu'évidemment aujourd'hui, par les temps qui courent, on va dire, hein, on est en 2016 quand on enregistre cette émission, par les temps qui courent, la religion, l'État, la vie des uns et des autres, c'est pas évident. Hein.
Bah, je crois que c'est des sujets effectivement qui sont de l'actualité, dont tout le monde a en tête. Les événements du Proche-Orient, évidemment, n'arrangent rien, les attentats non plus. Et effectivement, on a l'impression qu'on ne parle plus que de religion. Et j'avais un peu pensé commencer l'émission par cette phrase de Comprête à André Malraux, qui aurait dit « Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas ». Alors je précise tout de suite que ce n'est pas André Malraux qui l'a dit, je passe sur les détails de la communication. En fait, c'est une phrase de Jean-Paul II qui se trouve dans son livre « Entrée dans l'espérance » où il dit « Le 21e siècle serait religieux ou ne serait pas ». Voilà. Maintenant, moi je pense comme toi que tout le monde parle de la religion, c'est un sujet qui interpelle, qui interroge, on va même jusqu'à parler d'un retour du religieux. Je peux prendre mon expérience personnelle, moi quand j'ai commencé à enseigner il y a pas mal de temps de cela, les élèves ne voulaient pas qu'on fasse le cours sur la religion, ça leur cassait les pieds. Ils voulaient un cours sur l'inconscient, un cours sur le langage et sur l'État éventuellement, mais pas la religion. Alors qu'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Les élèves me disent « quand est-ce qu'on va parler de la religion ? Est-ce que c'est bien le programme ?» etc. Donc il y a vraiment une interrogation, un souci, une demande d'éclaircissement sur ce qu'est le religieux, à la fois chez les adultes et chez les élèves.
Est-ce qu'il y a un retour du religieux ou est-ce qu'il y a un retour sur la question religieuse ?
Alors, c'est la question qu'on va essayer de démêler. Peut-être si on y arrive, je proposerai une réponse en fin d'émission. Il y a un retour sur la question religieuse, ça c'est certain. Les médias en abusent d'ailleurs probablement. Est-ce qu'il y a un retour du religieux ? Vraiment, ça c'est pas évident du tout. C'est peut-être... la religion est peut-être le masque d'autres forces qu'on ne veut pas toujours nommer. On peut parler de Daesh. Il apparaît évident que c'est une volonté d'expansion territoriale qui est à l'œuvre. L'islam étant ici le porte-nom, mais c'est tout. Je ne pense pas que ces gens soient particulièrement musulmans, puisque voilà, ils sont simplement avides de pouvoir, de richesse et d'occuper
cela, oui.
Un territoire qui s'est effondré.
Alors voilà. Moi j'avais envie, puisque tu as cité une phrase qui n'est donc pas de Malraux, moi j'avais envie de commencer par « la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». J'ai l'impression que ça résume pas mal aussi la religion, l'État, la vie des uns et des autres en fait, la vie de la communauté.
Bon, cette phrase elle est célèbre, elle se trouve dans la Déclaration des droits de l'homme, je crois que c'est l'article 4. Mais elle pose un problème, c'est-à-dire elle s'arrête, ma liberté commence là où s'arrête celle des autres, mais où s'arrête celle des autres, où commence la mienne, c'est l'action de la limite. Où il faut poser des limites, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, etc. Donc c'est une phrase qui est très formelle, elle ne nous renseigne pas exactement sur ce qu'on peut faire ou pas faire. À quel moment je gêne autrui, à quel moment il me gêne, c'est jamais bien clair. Pour prendre un exemple qui est celui de la liberté d'expression, justement, et des fameuses caricatures, au fond, bien sûr, c'est des caricatures qui sont offensantes, mais est-ce qu'elles nuisent à autrui ? C'est pas du tout évident. On a un peu tendance aujourd'hui à élargir sans cesse le domaine des limites, c'est-à-dire à interdire aux gens la moindre plaisanterie, alors a fortiori si elle a pour objet le religieux, en confondant justement ce qui est de l'ordre de la simple offense ou de la simple, au fond, la remarque qui est mal perçue, et la chose qui gêne, qui porte réellement atteinte à autrui, le préjudice. Donc je pense qu'on aurait intérêt à distinguer offense et préjudice. C'est une remarque, j'en profite au passage, que j'ai trouvée dans un petit bouquin que je conseille, qui est très bien, qui est de Ruven Augier, qui s'appelle « Mon dîner chez les cannibales », et qui est un petit livre qui pose ce genre de questions et qui propose ce type de distinction.
Est-ce qu'il y a un moyen de définir la religion ?
Alors, ouais, on peut peut-être commencer par là, justement. Alors, j'ai cherché un peu la religion. Au fond, il y a deux étymologies du mot religion qui sont intéressantes. Il y en a une qu'on trouve chez Cicéron. Sa religion viendrait du verbe religere, latin, qui veut dire recueillir, rassembler. Et une autre étymologie qu'on trouve chez Lucrèce, qui viendrait du verbe religare, relier. Alors, ça paraît très proche, mais pas tout à fait. Pour Cicéron, la religion, c'est surtout une communauté d'hommes, qui sont rassemblés, reliés entre eux. Pour Lucrèce, c'est plutôt la religion, ce serait le lien qui unit les hommes à une force transcendante, à une divinité. Bon, dans tous les cas, il est question de lien.
Je te coupe encore une fois une seconde, mais Cicéron disait aussi, enfin écrivait, le fait de s'occuper, c'est la religion, c'est le fait de s'occuper d'une nature supérieure que l'on appelle divine et de lui rendre un culte.
Oui, absolument. C'est la fonction spirituelle de la religion. Alors, je pense que c'est difficile de définir une religion, ou la religion, d'ailleurs j'en parlerai un peu après. Je crois qu'on peut distinguer trois fonctions principales qui permettent de définir ce qu'est une religion. Une fonction morale, une fonction sociale et une fonction spirituelle, qui est celle précisément à laquelle tu faisais allusion. Et la première des trois fonctions, qui est peut-être la plus évidente, la plus visible, c'est la fonction sociale. Une religion, c'est une communauté d'hommes, une communauté de fidèles, une communauté de croyants qui se rassemblent à l'occasion de cultes et qui tissent entre eux des liens, somme toute, assez puissants. Beaucoup de gens, alors on le trouve chez Cicéron, on le trouve aussi chez Durkheim. J'aime bien sa citation, je vais la rappeler pour les auditeurs. Voilà ce qu'il dit Durkheim dans Les formes élémentaires de la vie religieuse. C'est un texte qui est paru en 1912. Il dit « La religion permet à la société d'entretenir à intervalles réguliers, je cite, « les sentiments collectifs et les idées collectives qui font son unité et sa personnalité ». Bref, la religion, c'est d'abord un lien social, un lien puissant qui permet aux individus de se reconnaître les uns les autres. On peut noter à ce propos que les signes ostentatoires religieux qui font tellement débat en France font un peu partie de l'essence du religieux, puisque le but de la religion, c'est de se reconnaître. Si je suis chrétien, je dois immédiatement savoir si l'autre est chrétien ou chrétienne. Si je suis musulman, je vois une fille, elle est voilée, je dis chic, je sais qu'elle pourra peut-être m'épouser. Donc il y a une volonté de visibilité dans la religion.
Sans caricaturer le voile, tous les musulmans ne sont pas voilés.
Non, bien sûr, et tu as raison de le rappeler. C'était une manière de montrer bien que on s'étonne que certaines personnes croyantes tiennent à afficher, au fond, leur conviction dans un vêtement, alors que c'est quelque chose qui a toujours été, je dirais, associé à la religion. On montre sa religion. Alors, aujourd'hui, je pense que nous avons un peu de mal en France à l'accepter, parce que, historiquement, la religion, elle a déserté l'espace public, en France particulièrement, en Europe aussi, mais dans une moindre mesure, elle a déserté l'espace public pour se cantonner à l'espace privé, à l'opinion privée en réalité. Donc on a du mal à admettre que la religion c'est aussi du visible et c'est aussi d'abord un signe de reconnaissance.
Mais il faut dire qu'en France la révolution française est passée par là, puis les révolutions sont passées par là et les années 1890, c'est la loi de 1901 évidemment.
Ah, il y a toute une histoire française qui explique ce qui est presque d'ordre du rejet du religieux chez beaucoup de Français. Et effectivement, il faut rappeler la Révolution française et les massacres de prêtres, enfin, la haine,
entre autres,
pour comprendre le statut très, très particulier de la religion chez nous, qui est vraiment, nous sommes, je crois, un cas unique, non seulement en Europe, mais dans le monde, le pays, la société la moins religieuse. Donc ça, c'est la première fonction de la religion, une fonction sociale. La religion réunit les gens dans une communauté, elle les rapproche, etc., quitte à porter des vêtements qui leur permettent de se reconnaître. Ensuite, une religion, ça aussi, et beaucoup de philosophes insistent là-dessus, une religion, ça a une fonction morale. Alors, il faut rappeler tout de même que la religion, les religions, se caractérisent par un grand nombre de commandements, de prescriptions, de lois. Alors, qui nous disent comment vivre et surtout qui sont censés nous apprendre ce qu'est une vie bonne à condition de suivre ces commandements. Alors, je peux prendre quatre exemples dans des religions différentes pour montrer que ça se retrouve un peu partout. Bah, dans l'Ancien Testament, il y a bien sûr le décalogue, hein, les 10 commandements. Au passage, ils sont plus nombreux. En réalité, on les ramène à 10 parce que c'est les 10 commandements qui ont une fonction explicitement morale. J'en citerai 2-3, ça suffira. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne désobéiras point. Commandement très important, on va le retrouver après. L'obéissance fait partie de l'esprit religieux. Dans le Nouveau Testament, on a évidemment la fameuse injonction christique « Aime ton prochain comme toi-même ». Dans l'islam, il y a les 5 piliers de l'islam, je ne vais pas tous les rappeler, mais il y en a un qui est important, c'est le devoir de charité, hein, que les musulmans appellent la zakat. Et c'est une charité qui est proportionnée aux revenus que gagne chaque croyant. Donc on est à la limite de l'impôt et du devoir moral, mais dans tous les cas, donc, c'est une prescription morale. Enfin, il y a aussi dans le bouddhisme, pour une religion qui nous est un peu plus lointaine, il y a aussi des commandements, des prescriptions, on ne va pas les citer toutes. Bah, le bouddhiste doit se montrer plein de compassion, doit être bienveillant envers son prochain, etc. Donc la religion, elle a essentiellement une fonction morale. Si j'en crois Locke, dans sa fameuse lettre sur la tolérance, donc on est à la fin du XVIIe, Locke disait que la religion était la source d'enseignement moral principal. Et lui, il va même jusqu'à penser qu'on ne peut pas être bon, honnête, si on n'est pas croyant. Donc Locke admettait tous les cultes, c'est un esprit très libéral, Locke, dans la société, avec une petite exception pour les catholiques qu'il n'aimait pas, mais sinon tous les cultes devaient avoir droit de cité. En revanche, et c'est là où on voit le côté daté de Locke, il refusait les athées. C'est-à-dire que la liberté de conscience était une liberté de culte, mais pas une liberté de n'avoir aucun culte. Et l'argument de Locke, il est intéressant, il est très ancien. C'est l'argument qui vient du Moyen-Âge, où les théologiens affirmer qu'on ne pouvait pas, il faut quand même aujourd'hui, il a du mal à l'entendre, on ne pouvait pas avoir une société d'athées. C'était impossible. Parce que les athées, ce sont des gens qui sont incapables de tenir leurs promesses. Ils n'ont pas de foi. Aussi bien en Dieu qu'en autrui, au fond, c'est des voleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui a cette idée de... qui rejetait l'athéisme de la liberté de conscience, quand même. C'est quelque chose qui a perduré jusqu'au XVIIe avec Locke et qui... Et Locke est un peu tardif, c'est-à-dire qu'à la même époque, on a un Français qui est Bayle, hein, Pierre Bayle, qui lui est plus moderne et dit, au fond, il faut tout de même admettre les athées, ce sont des gens qui peuvent être raisonnables, etc. Je terminerai sur cette fonction morale de la religion par une remarque. Au fond, aujourd'hui, on voit l'évolution des mentalités, nous sommes tous persuadés qu'on peut être quelqu'un de bien sans être forcément croyant. Donc on a assisté depuis deux siècles, peut-être la Révolution française à nouveau, on a assisté à une dissociation de ce qui est moral et de ce qui est religieux. Mais c'est une dissociation très récente, enfin deux siècles dans l'histoire de nos sociétés.
Religion et philosophie, il y a une différence, parce qu'on parlait tout à l'heure, tu parlais du bouddhisme qui est à la fois une religion et une philosophie de vie. Est-ce que c'est un peu la même chose en fait pour toute religion, puisqu'il y a des commandements, ça joue sur la morale?
C'est absolument différent, on ne peut pas identifier la religion à la philosophie. La philosophie, quels que soient les philosophes, c'est tout de même l'esprit critique, c'est aussi l'esprit rationaliste. Alors après, il y a des philosophies de toutes sortes, et des philosophies qui vont prôner l'irrationalisme, Pascal par exemple, mais même Pascal considère qu'il y a l'esprit de géométrie dans les sciences, l'esprit de finesse en philosophie, et donc ils sont deux esprits qui appellent de la raison, et à côté de cela, il y a ceux qui ont la foi, qui ont la grâce, mais là on n'est plus dans la philosophie. Donc la philosophie, même si elle a sans cesse croiser la théologie et la religion, parce que la philosophie parle de Dieu, parce qu'elle parle de la croyance, on ne peut pas du tout dire de la philosophie qu'elle est une religion. Ça, ce serait vraiment très dommageable pour la philosophie, je crois.
Et là, tu as cité plein de religions. Est-ce qu'on doit parler des religions ou d'une religion, en fait ?
Alors, c'est le premier problème, effectivement, qui se pose. On dit la religion comme si c'était une chose unique. Au fond, elles se ressemblent toutes. Or, c'est loin d'être acquis. Je prendrai deux exemples précisément. La religion catholique avec, par exemple, le dogme de l'Immaculée Conception. Puis on peut prendre aussi une religion très ancienne qui est le chamanisme. Le chamanisme, c'est une religion qui nous vient des steppes de Sibérie. Et il y avait des chamans qui étaient censés mettre en rapport les êtres humains avec les esprits de la nature. Bon, ça n'a absolument rien à voir avec le catholicisme. C'est pourtant une religion. Il y a des commandements, il y a un culte, etc. Alors, c'est une question qui est extrêmement théorique, c'est une question qui est difficile de traiter dans l'émission, parce que je pense que pour y répondre de manière honnête, il faudrait faire une histoire des religions et essayer de voir en recoupant l'une et l'autre. Bref, c'est plutôt un sujet pour un séminaire d'une année que pour une émission d'une heure. Mais effectivement, la question se pose. Disons, ce que je propose, puisqu'on a quand même peu de temps, c'est de conserver les trois fonctions que j'ai indiquées. La religion, c'est on a une religion quand on a une fonction sociale, une fonction morale et une fonction spirituelle, je voulais quand même en dire deux mots. La religion, elle met en rapport des individus avec des forces transcendantes, les dieux, le dieu, les ancêtres, les esprits, mais toujours avec quelque chose qui n'est pas visible. Voilà. Et la religion est là pour établir ce lien et donner une espérance, un salut, on y reviendra plus tard d'ailleurs.
Il y a des religions depuis toujours, évidemment.
Alors oui, absolument. Oui. Ça, c'est une question qui est importante. Il semble qu'on ne puisse pas concevoir de société sans religion, quand bien même la religion occupe moins de place aujourd'hui. La preuve en est, c'est que les anthropologues, quand ils ont découvert les peintures des grottes de Lascaux, se sont interrogés sur la signification, et aujourd'hui, à peu près, tout le monde est d'accord, pour leur conférer un sens religieux. Il semble précisément que ces peintures de l'art pariétal renvoient à des cultes chamaniques, là aussi, justement. Donc, ce ne sont pas des peintures décoratives ou des peintures qui rappelleraient des combats, etc., mais c'est des peintures qui illustrent un au-delà, semble-t-il. Moi, je ne suis pas spécialiste de la question.
Pour l'art pariétal, il y a aussi d'autres...
Oui, d'autres thèses. C'est pour ça que j'ai dit, la plupart sont d'accord. Là, la thèse que je cite, c'est celle de Leroy Gourhan, qui est
le plus grand.
Et pour lui, le sens est religieux. Maintenant, c'est une question qui est débattue, et elle reste ouverte. Il semble ne pas y avoir de société sans religion, c'est-à-dire, on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est intéressant aussi, c'est le culte des morts dans
les
religions.
Oui, l'enterrement,
voilà.
c'est ça.
Et bon, on sait que quand on a une petite société, on va forcément avoir une manière d'enterrer les morts ou de les brûler. Il y a toujours quelque chose qui montre que les gens prennent soin de ce qui se passera après. Voilà, et ça c'est intéressant. Même dans nos sociétés très laïques, les gens vont faire une cérémonie pour l'enterrement, même s'ils ne sont pas croyants. Nous sommes l'être humain à un rapport à la mort qui est symbolique. Et on peut dire que la religion a longtemps pris en charge le symbolique du rapport à la mort. Voilà. Alors, cette question, elle m'amène de l'unité du religieux, elle m'amène à une autre question qui est proche, mais qui est peut-être d'abord plus facile à traiter, puis plus contemporaine et peut-être plus, comment, plus parlante pour nos auditeurs. C'est la distinction entre la secte et la religion. Moi, c'est une question qu'on me pose souvent en tant que
Oui, c'est.
professeur. Mes élèves me disent, monsieur, qu'est-ce que c'est qu'une secte? Alors, quand je leur dis, bon, au fond, c'est peut-être tout simplement une religion, ils sont évidemment furieux.
Sachant qu'on parlait des chrétiens, le christianisme a commencé en
Ah,
étant une
c'est
secte.
exactement ce que je leur dis, c'est qu'on parlait, les Romains parlaient de la secte des chrétiens.
Bien sûr.
Alors, bon, on va essayer de répondre à peu près clairement à cette question, parce que là, c'est possible, mais ça va nous reconduire vers un autre problème. Mais commençons d'abord par éclaircir les choses. J'ai regardé dans le Robert la définition de secte, et c'est intéressant. Pour le Robert, il dit, une secte, c'est un groupe organisé de personnes qui ont la même doctrine au sein d'une religion. Ça, c'est le premier critère de la secte. Alors, on va par exemple parler de la secte des Mormons, de la secte des Témoins de Jéhovah, qui soutiennent une doctrine un peu décalée par rapport à l'Église protestante. Donc ils forment une secte d'un point de vue doctrinal. Le deuxième point du Robert, et qui est celui que les gens ont le plus souvent en tête, et évidemment paraît plus intéressant, il dit, une secte est une communauté fermée d'intentions spiritualistes où des guides, des maîtres, exercent un pouvoir absolu sur ses membres. Donc ici, le Robert met non plus l'accent sur le caractère doctrinal des sectes, mais sur leur côté, sur le pouvoir spirituel que les sectes exerceraient sur leurs fidèles. Alors, si on réfléchit, au fond, ces deux critères de distinction entre secte et religion, sont absolument pas pertinents. Bon, d'abord, la question doctrinale, les protestants, est-ce constitués d'une religion ou bien une secte? Est-ce qu'on doit dire la religion catholique romaine est là séparée de la secte des protestants? Évidemment non. On dit la religion protestante, la religion catholique.
Historiquement, ça a commencé aussi comme ça.
Mais bien sûr, mais maintenant, c'est la religion protestante. Il est probable que les sunnites et les chiites doivent considérer les chiites comme des sectaires. Mais les chiites en font autant pour les sunnites. Bien, donc la question de doctrine n'est absolument pas pertinente. Elle nous renvoie, chacun va se renvoyer la balle. C'est moi la religion, c'est toi la secte. Étant entendu que le mot secte est la plupart du temps pris dans un sens très négatif,
Oui, très péjoratif
très
aujourd'hui,
péjoratif.
alors qu'encore une fois, historiquement,
Absolument.
ça ne l'est pas.
Historiquement, c'est un mot qui est neutre. C'est une
C'est ça.
communauté religieuse, enfin,
À part.
voilà, à part. Mais aujourd'hui, il a pris un sens très négatif. On va vous voir très vite pourquoi. La seconde définition, le second élément de définition du Robert, qui met l'accent sur le pouvoir de la secte sur ses membres, on a envie de se dire, ah, là, on tient quelque chose d'un peu plus ferme. Les sectes, effectivement, et c'est pourquoi elles sont mal vues, elles endoctrinent, elles manipulent leurs fidèles. Eh bien, quand on s'y arrête, le critère n'est pas du tout pertinent. Je rappellerai quand même qu'une religion, c'est quelque chose qui possède un pouvoir spirituel, c'est même sa définition. Et elle a le pouvoir de commander les esprits, de leur faire croire ceci ou de leur faire croire cela. Je le disais tout à l'heure, il est difficile de se dire catholique romain si on ne reconnaît pas en Jésus le Messie, ni l'Immaculée Conception. Difficile de se dire juif si, je cite, c'est un passage de l'Exode, si on ne reconnaît pas ce passage, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ou encore, difficile de se dire musulman si on ne reconnaît pas la charada, qui est la profession de foi en l'unité de Dieu. Bien. Donc, les religions ont un pouvoir sur les esprits, les sectes aussi. En ce sens, on voit bien que secte ou religion, on passe par un principe d'obéissance. Et j'avais noté tout à l'heure que dans les 10 commandements, on a précisément « tu ne désobéiras point ». Donc si on veut distinguer la secte de la religion par le fait qu'elle exige obéissance de ses fidèles, ça ne va pas le faire, on est mal parti. Alors il y a quand même, on creuse, il y a quand même un dernier critère, et qui est au fond le critère juridique actuel. Une secte, au fond, c'est une sorte de mauvaise religion qui utiliserait la contrainte. Et on verra d'ailleurs un peu après que les religions ne sont pas censées utiliser la contrainte pour convaincre les esprits. Alors la contrainte, elle apparaît d'abord souvent dans un sens financier. On dit, une secte, qu'est-ce qu'elle fait en premier? Elle vide les poches de ses fidèles. Elle peut aussi apparaître au sens propre. Les sectes, c'est bien connu, isolent leurs fidèles du reste de leurs proches. Les gens qui se plaignent de telle et telle secte disent, je ne peux plus voir mon fils, je ne peux plus voir ma fille. Ou pas. Et parfois, les fidèles sont proprement cloîtrés. Mais on sait bien que les cloîtres Il n'y a pas que dans les sectes qu'on les trouve.
Bien entendu.
C'est qui montre l'ambiguïté. Donc, l'utilisation de la contrainte ferait la différence. Et on se dit, le problème est réglé. Mais il n'est pas du tout réglé, parce qu'en fait, comment établir que la secte a utilisé la contrainte? Comment établir que je n'ai pas volontairement vidé mes poches parce que je considère que le gourou, que telle secte, au fond, est la personne qui peut me sauver?
Oui, si on prend les Templiers de l'époque médiévale, effectivement, on devait faire don de l'ensemble de sa fortune et adhérer, entre guillemets, aux Templiers.
Et c'était censé être volontaire.
Exactement.
Alors, on peut dire qu'il y a une pression, mais comment établir une pression sur les esprits? Et là, on est renvoyé à un problème qui est très résistant, qui est le problème de l'intériorité. On ne peut pas observer ce qui se passe dans une conscience. Je ne peux pas prouver que vous avez été manipulé. C'est absolument impossible. Je peux prouver que votre compte en banque a été vidé. Mais si la personne dont il est question dit « mais je l'ai vidé de mon plein gré », qu'est-ce que je peux faire? Donc là, on est devant un problème très résistant. Je peux même dire « je me suis laissé enfermer de mon plein gré parce que maintenant, le sens de ma vie, c'est de vivre cloîtré ». On est donc envoyé à une liberté spirituelle qui paraît absolument incassable. Et c'est le gros problème du droit aujourd'hui. Lorsqu'on sent manifestement qu'il y a un abus sur les personnes, on a beaucoup de mal à prouver l'abus. Et c'est pourquoi il y a des sectes qui continuent de prospérer jusqu'au jour où elles finissent par amener les gens au suicide. Alors là, on dit, voyez, il y avait bien des abus, mais c'est un peu tard.
Et c'est là que l'État s'immisce dans la religion, dans la secte, dans l'individuel.
Absolument, tu as raison, parce que c'est de quel droit l'État peut-il dire à quelqu'un, mais quittez cette secte, elle vous veut du mal. Si l'autre vous dit, mais non, elle me fait du bien. Et le rôle de l'État est-il de surveiller les consciences? Et
d'où ma référence à la liberté du début, en fait.
Absolument. Ouais. Et on y reviendra à plusieurs reprises. On peut dire que l'État, à moins d'être un État despotique, dans son rapport à la religion, va à chaque fois devoir s'arrêter lorsqu'il empiète sur la liberté de conscience.
La liberté des uns commence ou s'arrête là où commence celle des autres.
Mais c'était ta phrase, effectivement. Mais là, c'est la liberté de l'État, c'est pas la liberté des uns.
Mais le droit est fait pour tous et non pas pour l'individu.
Absolument, oui. Le droit est fait pour que chacun puisse coexister avec les autres. Mais encore une fois, ici, c'est le rapport de l'État aux individus. Donc, on a d'un côté un pouvoir qui est quand même immense, qui est celui de l'État, et des petits pouvoirs qui sont ceux des individus.
Mais c'est un gros problème aujourd'hui. Effectivement, tu disais tout à l'heure que la religion, certaines religions en tout cas, ont un pouvoir moral, en tout cas...
Oui.
Ont tendance à donner un ordre moral,
absolument,
et
oui,
donner une sorte d'ordre tout court de vie et un droit en général, et qui viendrait en opposition avec l'État, qui pourrait en tout cas parfois entrer en opposition avec l'État.
C'est compliqué, parce que la réponse elle devrait être historique, c'est-à-dire que elle a toujours été. Nous vivons maintenant dans des sociétés où l'État et la religion sont séparés. Mais disons, la religion n'a pas trop de problèmes avec cela. Elle dit clairement, moi, si vous adhérez. Locke dit qu'il compare la religion à un club, je trouve ça absolument génial. On peut adhérer à l'anglicanisme comme on adhère à un club de philatélie, ça c'est vraiment une idée de philosophe libéral. Bon, si vous adhérez au club anglican, par exemple, vous allez devoir suivre les règles du club anglican, il faut faire ceci, il faut faire cela. Si ça ne vous plaît plus, vous quittez le club. Mais les religions, quelles qu'elles soient, ne se cachent pas de donner des ordres. On peut dire même que c'est leur principale fonction. Et dans la mesure où l'individu est censé adhérer librement à cette communauté, il adhère librement au commandement qu'il reçoit et qu'il accepte de suivre de son plein gré.
À partir du moment où ça n'empiète pas sur la liberté des autres au sein d'une société.
Oui, mais au fond, la manière dont moi je vis, à moins que cette façon soit dangereuse, n'empiète pas sur la manière dont les autres vivent. Si j'éprouve le besoin de faire d'aller tous les dimanches à la messe et plusieurs fois d'aller même aux vêpres, si j'éprouve le besoin le vendredi de faire mes prières, ça ne gêne personne. Hein.
Eh bien, pas forcément, parce que en fait, je suis pas d'accord. Quelqu'un qui aurait besoin d'aller à la messe tous les dimanches, à partir du moment où une loi décréterait que maintenant on peut travailler le dimanche, ça peut poser un problème pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, je me fais l'avocat du diable, puisque évidemment, tout ça m'indiffère littéralement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça peut rentrer en conflit avec la société et avec l'État.
Oui, mais c'est là où l'État doit se montrer un peu libéral, c'est-à-dire que...
Doit se montrer, mais...
Jusqu'à présent, il l'est en partie, c'est-à-dire que les gens peuvent pratiquer leur culte. tant que le culte ne nuit pas à autrui. Mais même, les questions se posent aujourd'hui, puisque nous avons le jour férié, c'est le dimanche, et qui est le jour où nous sommes une société de, quand même historiquement catholique, donc c'est pas pour rien que le dimanche est férié. Mais pour les autres, alors pour les juifs, c'est le samedi, bon, ça tombe pas trop mal non plus, puisque c'est aussi férié. Le problème, ce sont les musulmans qui ont leur jour férié le vendredi. Bah, on sait que pour certains, ils trouvent un aménagement en sein de l'entreprise, éventuellement, s'ils veulent une demi-heure de prière, ils prendront sur leur déjeuner. Il y a des accommodements possibles. Je ne pense pas qu'on ait intérêt à heurter de plein front.
Je ne dis pas ça.
Non, j'entends bien, mais quand tu parles, c'est ce que certains pourraient entendre. C'est-à-dire, au fond, avoir une forme d'État qui non seulement soit séparé de la religion, mais qui exige que la société elle-même soit entièrement laïque. Nos sociétés ne sont pas laïques, l'État est laïque.
L'État l'a voulu, en tout cas. C'est vrai que à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, les Clémenceau, les Jules Ferry, etc., réclamaient un État intégralement laïque et voulaient rejeter la religion. Donc c'est pour ça que
oui, mais
j'en reviens aussi un petit peu à l'histoire et pourquoi on en est là.
Mais il faut bien distinguer ce qui est du ressort de l'État.
On a essayé.
Ben, oui et non, parce qu'on n'a jamais demandé que la société soit laïque. C'est l'État français qui est laïque, qui est neutre. Mais Clémenceau n'a jamais exigé que de détruire les églises. Mais si tu prends. C'est-à-dire que ce que tu dis laisse penser que l'histoire française aurait été comparable à ce qui s'est passé en Union soviétique, où là, le PC exigeait que les individus ne pratiquent aucun culte.
À la différence que l'URSS est arrivé après, et donc du coup a pu se servir de l'histoire, mais les Clémenceau et Ferry et autres ont souhaité que l'école sorte, enfin que la religion sorte de l'école, par exemple.
Absolument.
Ça, c'est très important.
Mais parce qu'elle a un pouvoir.
Surtout pour toi, prof.
Absolument, parce que la religion exerce un pouvoir sur les esprits, dont elle ne se cache pas, d'ailleurs. C'est un mauvais procès qu'on lui fait. La religion ne prétend pas être neutre à l'égard des esprits. Elle est là pour apprendre certaines choses. Donc le fait de chasser la religion de l'école, effectivement, qui est la grande idée de Ferry, et puis il faut voir aussi le contexte de l'époque avec la puissance qui
est
le clergé, qui aujourd'hui est effectivement un peu dépassé. Oui, donc on a chassé la religion de l'école, mais l'école est un des bras de l'État. Enfin, l'instruction est publique. Donc que l'école française, majoritairement, puisqu'il y a quand même beaucoup d'écoles privées confessionnelles en France, mais que l'école française soit laïque et donc où il n'y ait pas de religion, de religiosité tout au moins, n'implique pas du tout que la société française soit laïque. Même si elle l'est un peu, mais ça c'est dû à notre histoire. Mais pour la plupart du temps, dans les sociétés, les gens pratiquent leur culte. Et encore une fois, c'est tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Il y a des entreprises où on voit des employés dire, ben voilà, moi je vais arrêter le travail à 11h parce que j'ai un tel culte, et puis un autre dira, c'est 10h, je ne sais pas, il y a un tas de cultes différents. Et c'est, effectivement, ça pose des problèmes de coexistence, ça, je suis d'accord.
La problématique des crèches dans les établissements publics de type administration, etc.
Je pense que... dire que c'est un faux problème, c'est facile, parce que le problème s'est vraiment posé, donc il n'est pas faux. Je crois que la solution, à mon sens, elle devrait être comparable à celle adoptée pour l'école. C'est-à-dire que les crèches, dès lors qu'elles sont des états publics, elles doivent être laïques. Ça me paraît
une crèche laïque, j'ai hâte de voir ça. Non, je parlais des crèches de Noël, pardon. Oui, c'est vrai. Désolé. Non, oui, bien sûr.
Je pensais de la faire.
La crèche de Noël, les sapins de Noël.
Moi, là-dessus, puisqu'on veut que l'État soit neutre en matière religieuse, les écoles ne doivent avoir ni crèche ni sapin. Là-dessus, je n'ai pas d'État.
D'où ma réflexion de la problématique, malgré tout, entre l'État et la religion en général.
Ah, c'est le gros problème, mais j'aimerais... je pensais l'aborder un peu après, parce qu'il y a d'autres problèmes qui se posent avant et qui vont un peu éclairer ce dernier problème, qui est celui de... Qu'est-ce qui est du ressort de l'État? Qu'est-ce qu'il peut faire légitimement? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qui est du ressort de la religion, qu'est-ce qu'elle peut faire et qu'est-ce qu'elle n'a pas le droit de faire? Parce qu'on oublie souvent que la séparation du pouvoir temporel, celui de l'État, et du pouvoir spirituel, celui de la religion, elle est doublement contraignante. Elle contraint l'État, c'est-à-dire que l'État doit être neutre en matière religieuse, mais il a aussi l'obligation de respecter les cultes. Mais elle contraint aussi la religion, pour le dire tout de suite, puisqu'on est dessus. La religion n'a pas le droit... Les religions n'ont pas le droit d'utiliser la contrainte. Un prêtre voit arriver un jeune homme qui lui dit « Écoutez, moi j'aime beaucoup le catholicisme, ses commandements me plaisent, et même ton prochain comme toi-même, mais Jésus, le Messie, j'ai du mal, est-ce que ce serait pas après tout un prophète ?» Évidemment, c'est pour le coup un blasphème, si on veut reprendre cette expression à la mode. Bon, le prêtre n'est pas content, mais il n'a pas le droit d'utiliser la punition. Il ne peut pas dire « Vous allez me réciter 30 Ave Maria pour vous faire pardonner », il n'a absolument pas le droit. Donc les religions doivent renoncer à la contrainte. Et ça, c'est important parce qu'elles ont parfois du mal à l'accepter. Elles ne peuvent absolument pas user de moyens de pression pour persuader un fidèle de croire ceci plutôt que cela.
Oui, les temps ont changé.
Absolument. Et ils ont changé en raison de cette séparation, qui, à mon avis, a des effets très très importants au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Enfin, pour le grand public, les gens, la séparation, elle est toujours pensée du côté de l'État. On dit voilà, l'État n'est plus religieux, mais elle est aussi pensée du côté religieux. Le religieux n'est plus politique, et il ne doit plus l'être. Et je pensais alors.
Là, ça serait une autre émission sur qu'est-ce que la politique.
Absolument.
C'est quand même la vie de la cité.
Politique, c'est la manière dont les gens veulent vivre. Et c'est l'espace commun, l'espace public. La religion, elle est du côté de la conscience privée, de la conscience personnelle. Donc, un exemple qui m'a frappé, on en parlait dans l'autre émission, lorsque c'était la France s'apprêtait à voter le mariage pour tous, il y a des manifestations, etc., etc. Et le pape de l'époque, qui était, je crois, notre cher Jean-Paul II, était intervenu dans le débat, trouvant que cette loi était évidemment scandaleuse. Bah, on peut dire que là, il y avait un abus de pouvoir du religieux. La religion, en l'occurrence catholique romaine, n'a absolument pas à interférer avec la puissance législative de la République française.
Je crois que c'était Ratzinger, mais...
Ratzinger,
en même temps, ça les touche aussi. Il y a le sacrement, le mariage est un sacrement.
Oui, mais... non, enfin, il est un sacrement d'un point de vue religieux, mais quand vous allez vous marier sous l'égide de la République française, ce n'est pas un sacrement. Il faut rappeler cela. Et sinon, bah, la loi n'a pas de sens. La loi française sur le mariage n'est pas une loi religieuse. Ce que d'ailleurs beaucoup de gens n'ont absolument pas accepté encore. Ils vont à la mairie et ils sont sacrés. Non, le maire
oui,
ne sacre personne.
Sacre pas, ouais. Donc, contrairement à ce que le maire peut croire parfois.
Oui, alors, absolument, tu as raison, oui, tu as bien raison de le rappeler. Voilà, donc y a, les gens, encore une fois, ont bien perçu que l'État devait se désinvestir d'un certain nombre de prérogatives, mais ont mal compris que c'était vrai aussi du côté religieux. Alors, c'est un processus qui prend du temps, qui se met en place. Pour certains, il est irréversible. Pour d'autres, non, on en reparle, on conclura là-dessus. Est-ce qu'il y a ou non un retour du religieux? Personnellement, je ne pense pas. Les choses sont déjà très, très, très avancées. Enfin, ce qu'on appelle la loi positive, c'est-à-dire la loi écrite par les votés et écrite par les hommes, a toujours l'avantage sur celle qu'on appelait autrefois la loi divine. Et je vois mal comment on pourrait revenir en arrière, sauf révolution religieuse tout à fait improbable.
Et la politique pourrait-elle être une religion? Pour certains.
On a envie de dire oui, évidemment, tout le monde le sait. Mais c'est un petit peu le. Tout à l'heure, on parlait de la question de l'unité du religieux, au fond, qu'est-ce qu'une religion, etc. J'ai évité d'en parler parce que, bon, on n'a pas trop le temps, mais on a souvent parlé, on a dit le communisme est une nouvelle religion, on parle du culte de la personnalité, du culte de Staline, par exemple. Enfin, il n'est pas le seul. Donc, on voit bien que. La religion peut investir des domaines qui ne sont pas proprement religieux. Mais on parlera, en philo, il y a un terme que j'aime bien, on va plutôt parler de religiosité, dans ce cas-là, plutôt que de religion.
C'est quoi la différence?
La religiosité, c'est une certaine attitude d'esprit qui incite au culte, alors qu'il y a évidemment un rapport avec la religion, mais qui ne renvoie pas forcément à une institution clairement établie. Il faut le rappeler, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les religions, elles sont instituées. Une religion, justement, moi je le vois avec les élèves, ils confondent souvent la foi et la religion. La foi, c'est subjectif, la religion, c'est social, observable, donc analysable. Ils confondent la foi et la religion, et ils confondent la foi avec Dieu, la religion avec Dieu aussi. Bon, Dieu, on peut espérer qu'il est éternel, enfin, on n'a pas trop de nouvelles. La religion, elle a un commencement dans le temps, et peut-être aurait-elle une fin dans l'histoire aussi. Donc, le phénomène religieux est un phénomène historique.
Il n'y a pas un côté superstition quand même aussi,
alors,
dans la religion?
C'est un peu une autre distinction que je voulais faire, effectivement, dans l'émission. On a vu donc, ce qui distinguait secte et religion, et j'ai montré que ce n'était pas gagné de les distinguer, au fond, hein, puisque le problème de la contrainte est toujours très difficile à établir. La foi et la superstition, c'est un vieux problème aussi. On peut déjà rappeler globalement que la foi possède, même chez ceux qui ne sont pas croyants, chez les athées, un sens globalement respectable, va-t-on dire. Et la superstition est toujours présentée de manière assez ridicule. Je cherche, là, j'ai une phrase de... comment il s'appelle? Attendez, je regarde mes notes. Je ne le retrouve plus. Voilà, de Plutarque, pardon. Et il dit « On ne saurait imaginer toutes les sottises dont la superstition est capable. » Donc, c'est tout dire. La superstition, elle a tout le monde contre elle. Elle a les philosophes, et notamment les philosophes rationalistes. Elle a aussi, il faut le rappeler, les religieux. Les religieux se méfient beaucoup de la superstition parce qu'ils voient bien qu'elle entraîne la religion vers du délire. Alors, si on essaie d'y voir un peu plus clair, il faut peut-être commencer par rappeler comment on peut définir la foi. Bon, la foi, je l'ai dit, c'est un phénomène subjectif, c'est pas du tout quelque chose de visible. Au passage, je signale tout de même qu'on peut appartenir à une communauté de croyants et ne pas avoir la foi. Ça paraît paradoxal, ça paraît énorme, c'est tout de même le sujet de la pièce de Molière, Tartuffe. Donc, s'il y a cette notion qui est quand même importante d'hypocrisie religieuse, qui elle, par contre, me semble faire un comeback très important, ce qui n'est pas le cas du religieux forcément, c'est bien parce que la religion est visible, la foi est invisible.
Cachez-moi ce saint que je ne saurais
exactement,
voir.
Oui, c'est exactement ça. Et enfin, oui, on sait qu'on cache beaucoup de choses en ce moment, justement. Donc la foi est quelque chose de personnel. On ne sait pas si vous avez la foi, si vous ne l'avez pas. C'est fait... Alors plus précisément, c'est quoi? Je vais regarder du côté de Pascal, il dit que c'est un sentiment. Alors mais quel sentiment? Sentiment inexplicable. Et Pascal va définir la foi dans son opposition à la raison. Il y a cette phrase ultra célèbre, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, qui est très jolie. Mais ça veut dire que pour Pascal, il y a un abîme entre la foi et l'entendement, la foi et la raison. C'est-à-dire que la foi me donne accès à une certaine connaissance, en particulier la foi me permet de savoir que Dieu existe. La raison ne peut pas. Donc la foi, c'est subjectif, c'est un sentiment extraordinaire. C'est pas la jalousie, ça n'a rien à voir avec tout cela. Et alors c'est quoi? Si on creuse toujours du côté soit de Saint-Augustin, soit de Pascal, on est renvoyé, la foi, c'est un sentiment que je possède par la grâce. Et la question qui se pose, qui est une vraie question, moi, je trouve intéressante, c'est mais comment on fait pour avoir la foi? Quand vous êtes athée, vous dites vous avez des amis qui ont la foi, vous dites ils ont bien de la chance, etc. Moi j'aimerais bien. On ne sait pas. Parce que si je peux écouter le prêche d'un prêtre, d'un rabbin, d'un imam, d'un bouddhiste, peut-être si je suis un rationaliste, je vais dire oui, ce sont des billevesées, enfin, ça ne me convainc pas. Alors admettons, les gens vont dire, mais lisez les livres saints, les livres canoniques. Alors je peux les lire, mais là je me tourne du côté de Spinoza dans le traité théologico-politique. Spinoza dit, au fond, ces livres sont pleins de contradictions. On oublie toujours que ce sont des livres qui ont été écrits à des époques différentes, par des gens différents, et qui contiennent des messages souvent opposés les uns aux autres. Donc un esprit critique, et même bienveillant à la limite à l'égard de la religion, dira, mais ces livres saints ne sont pas très clairs. Au mieux, un esprit un peu plus romantique dira, c'est très beau, il y a des très beaux textes dans l'Ancien Testament, je pense au livre de Job, à l'Ecclésiaste, ou le Cantique des Cantiques, les livres sapientiaux sont magnifiques. Oui, on y verra, on les lira avec un plaisir esthétique. Éprouver un plaisir esthétique n'a jamais rendu quelqu'un croyant. Donc la foi est un sentiment qu'on ne peut pas forcer, sinon c'est l'hypocrisie religieuse, c'est un sentiment qu'on ne peut pas démontrer, donc c'est la grâce. C'est absolument irrationnel. Vous l'avez pas. Et il y a toujours chez Pascal, où on trouve quand même, évidemment c'est un peu son sujet, des trésors, des perles là-dessus, il dit dans le mystère de Jésus, ça fait partie des fragments hors classement des pensées, il dit « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé ». Ça veut dire que si vous n'avez pas déjà l'idée de Dieu en vous, la foi, vous n'allez pas vous mettre à la recherche de Dieu. Mais ça veut dire aussi, inversement, que si je n'ai aucun sentiment de Dieu, on peut me raconter tout ce qu'on veut, les plus belles choses, et il y a des très belles choses dans les textes religieux, ça me laissera de marbre. Donc on est renvoyé à un mystère et à de l'irrationnel. Et c'est là où il y a un problème, si on est dans l'irrationnel, est-ce que la foi n'est pas semblable à la superstition? Qu'est-ce que c'est que la superstition? Alors, là aussi, on a dans un premier temps une distinction qui est assez pratique, qui vient des philosophes. La foi, elle se définit par son objet qui est Dieu. Je crois en Dieu. La superstition, elle, c'est très différent. Elle porte sur des phénomènes naturels. Par exemple, je pense, j'ai trouvé un trèfle à quatre feuilles ce matin, chic, je vais avoir une journée, un mois de bonheur, peut-être une année, si on est très superstitieux. Inversement, j'ai croisé un chat noir, mince, je serai malheureux. Donc, ou encore, j'ai entendu une porte claquer à plusieurs reprises dans la maison, c'est une preuve qu'il y a des fantômes. Bon, donc les superstitions portent toujours sur des choses qui sont observables. Et puisqu'elles sont observables, et c'est la grande différence avec la foi, on doit pouvoir les démonter pièce par pièce. C'est-à-dire qu'il est facile de montrer à celui qui est persuadé que sa maison est hantée qu'il y a un courant d'air, tout simplement, mais qu'il n'y a pas de fantôme. De même, si vous pouvez avoir trouvé un trèfle à quatre feuilles et apprendre à midi que votre femme vous quitte. Bon, le trèfle était un
peu... Ce qui est peut-être une chance.
Peut-être, effectivement. Ça, c'est une hypothèse qu'on évitera de creuser. Bien. Mais donc, la superstition a toujours un rapport à la nature, elle donne un sens. Au fond, les superstitions essayent de donner un sens à ce qui n'en a pas. Par exemple, vous êtes levé du pied gauche ce matin, et vous devez prendre l'avion à midi. Et vous hésitez, vous avez la trouille de l'avion, que sais-je. Vous dites non, c'est mauvais signe, je me suis levé du pied gauche. Vous ne le prenez pas, et puis crac, vous apprenez que l'avion s'est abîmé en mer. Voilà, superstitieux, absolument convaincu, je dis bien fondé de sa superstition. Mais c'est une fois sur mille, etc. Donc, la plupart du temps, les philosophes, les religieux eux-mêmes disent il ne faut pas confondre du tout la foi, on parle de Dieu, la superstition. En gros, pour résumer, croire en Dieu, croire aux fantômes, ça n'a rien à voir. L'un est noble, l'autre est ridicule, vulgaire. C'est ce que les Grecs déjà appelaient la religion du peuple, qui n'y comprend rien et qui croit à fond à n'importe quoi.
Le baptême de Clovis est un peu une sorte de superstition. J'ai intérêt à être baptisé pour gagner contre les... contre les Visigoths, etc.
Absolument.
Ce qui s'est passé, donc du coup...
Du point de vue puriste, c'est absolument superstitieux, exactement. Ouais. On est presque dans des pratiques de l'ordre de la magie.
C'est ça.
En invoquant, en me faisant baptiser...
L'église primitive peut être prise comme magique.
Absolument. Effectivement. Alors, donc, ce qui montre d'ailleurs ton exemple, c'est que, puisque Clovis est chrétien, c'est qu'on va... Alors, la distinction, elle est vraiment une distinction, je dirais, théorique, foi superstition. Elle est plaisante, parce qu'on dit c'est clair, donc faut les croyances, et il y a une beauté de la croyance, et de l'autre côté, il y a la superstition, il y a une folie de la superstition, on ne confond pas. Mais quand on creuse un peu, on va voir que tout se complique. Alors, tout se complique parce que la foi, c'est pas seulement croire en Dieu... c'est aussi croire en plein d'autres choses qui accompagnent cette croyance. Il y a un texte de Spinoza, j'y reviens, j'aime bien Spinoza, les auditeurs vont le comprendre, qui se trouve dans un petit texte qui n'est pas trop difficile à lire pour une fois, c'est l'appendice au livre 1 de l'éthique, et Spinoza prend un exemple. Alors je lis le début de l'exemple, c'est très simple. Si, par exemple, une pierre est tombée du haut d'un bâtiment sur la tête de quelqu'un et l'a tué. Donc c'est très simple, quelqu'un se promène dans une rue, une pierre tombe, il meurt. Bon. À partir de là, Spinoza développe deux lectures différentes de l'événement. La lecture rationaliste, eh bien, la pierre est tombée parce que le vent soufflait. Et le vent soufflait parce que la veille, en mer, une tempête s'est élevée, etc. En même temps, le type qui passait par là avait rendez-vous, il devait emprunter cette rue. Donc on a deux événements eux-mêmes entièrement explicables. La pierre n'est pas tombée sans raison, elle est tombée parce que le vent soufflait. Le type n'est pas passé là sans raison, il est passé là parce qu'il avait rendez-vous sur la place du village, que sais-je. Tout ça est rationnel. Mais la rencontre des deux est irrationnelle. Ça veut dire en clair, et ça c'est important, parce qu'on est vraiment à la racine de la superstition et probablement de la foi, ça veut dire que le type est mort de manière absurde. 2 secondes plus tard, il vivait. 3 secondes plus tard, il vivait. Non, il est passé au mauvais moment. Et quelque part, c'est vrai que c'est scandaleux de mourir de manière absurde. On peut considérer que toute mort est absurde, mais c'est précisément là où la religion réinvestit le terrain. Et Spinoza, à ce moment-là, développe l'antithèse. Il dit, mais les gens vont pas du tout... Enfin, « ils » dans le texte de Spinoza, il les nomme pas, c'est intéressant. Il dit toujours « ils » au pluriel. On comprend très vite que « ils », ce sont les religieux. « Ils » vont pas du tout laisser passer ça. C'est pas possible qu'ils soient morts comme ça sans raison. Ils disent, mais pourquoi le vent soufflait ? L'autre répond, bah, parce qu'il y avait une tempête en mer. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait une tempête en mer ? Bah, parce qu'il y avait une dépression centrée sur l'Atlantique Nord. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait une dépression, enfin, etc. Ils ne lâchent pas. Et à un moment, évidemment, l'esprit rationaliste dit on ne peut pas tout expliquer. Il y a une part de hasard, une part d'inexplicable. Et là, les religieux, évidemment, tiennent le pompon rouge.
Ils investissent le vide.
Voilà, exactement. Ils investissent. Ah, vous ne pouvez pas expliquer. C'est donc la main de Dieu. Et cet homme est mort, ce n'est pas sans raison, c'est que tel était son destin.
Manipulation, alors.
Ah, alors, on va y arriver, c'est le prochain point, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce type de remarques, tu nous as dit, mais au fond... Bah peut-être que rien ne distingue la foi de la superstition, parce que croire que vous êtes mort là parce que c'était votre destin, et croire qu'un trèfle à 4 feuilles porte bonheur, est tellement différent. Donc Spinoza va jusqu'à dire, et c'est une phrase qui est peut-être la plus célèbre de Spinoza et de l'histoire de la philosophie, c'est « la volonté de Dieu, dit-il, cet asile de l'ignorance ». C'est une phrase d'une très grande violence. La volonté de Dieu, cet asile de l'ignorance, c'est le vide dont tu parlais à l'instant, que les religieux investissent. Bien. Alors...
Mao disait à peu près la même chose sur la religion, c'est exactement le type de parole.
Alors justement, comme tu dis, est-ce que la religion ne va pas nous asservir ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on se trouve après foi et superstition, donc on a bien vu la difficulté de les distinguer, et au demeurant, si vous êtes croyant, vous les distinguerez, si vous ne l'êtes pas, vous ne les distinguerez pas, au fond, on est renvoyé à cela, à une liberté de conscience de l'individu. Si vous croyez sincèrement en Dieu, vous vous moquerez de ceux qui croient aux fantômes, mais si vous ne croyez pas du tout en Dieu, vous direz, bon, au fond, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc c'est un peu un débat qu'on ne peut pas réellement trancher, je pense. Et on verra justement qu'aujourd'hui, on a déplacé le débat vers une question du droit. Il ne s'agit pas de savoir si vous avez tort ou raison de croire en Dieu, mais est-ce que vous avez le droit de croire en Dieu ? C'est ça la démocratie. Bien. Mais le statut de la religion, il se trouve évidemment un peu atteint par la question de la foi et de la superstition. Est-ce que la religion, c'est un asservissement des esprits ? Hypothèse évidemment radicale. Ou est-ce qu'elle est, c'est ce qu'on avait dit au départ dans sa définition, est-ce qu'elle est une élévation des âmes. Quel est le statut de la religion ? Alors, c'est une question qui, il faut quand même le préciser, c'est la question type de l'examen critique rationaliste de la religion. C'est la question qui commence à se faire entendre au XVIIe, et puis qui va prendre toute son ampleur au XVIIIe et au XIXe, et encore un peu au début du XXe siècle. Mais c'est intéressant, c'est une question qu'on ne pose plus. Ou très rarement, enfin, ou sinon dans un cours de philo éventuellement. Mais c'est une question qui tend à disparaître du débat. Parce que la question du vrai du faux a été remplacée par la question du droit, du licite et de l'illicite. Voilà, j'ai le droit de croire en Dieu parce qu'au fond, ça ne vous gêne pas du tout. Tant que pardon, tant que je ne vous tape pas dessus.
Quelque... Que je ne casse pas les micros.
Et tant que je ne casse pas les micros, effectivement. Alors peut-être parce qu'il y a quand même un florilège de critiques de la religion assez impressionnant. Alors bon, Spinoza, au XVIIe siècle, la volonté de Dieu, c'est asile de l'ignorance, je l'ai dit. XVIIIe siècle, Diderot, tout de même, il faut en parler. Il écrit ce roman stupéfiant qui est La Religieuse, hein, qui décrit les conditions d'enfermement des femmes dans les cloîtres et les vies très peu religieuses qu'elles y mènent. Livre évidemment qui fait scandale. Je rappelle tout de même pour les auditeurs que quand Jacques Rivette a tourné un film d'après La Religieuse, ce film a été interdit pendant 10 ans en France. Nous sommes dans les années 70. La Religieuse interdite pour les mêmes raisons qu'elle avait été interdite au 18e. Ça laisse réfléchir. Diderot écrit aussi un petit texte que je vais citer tout à l'heure, plus précisément, dont j'aime bien le titre, c'est L'entretien avec la maréchale 2. On ne connaîtra jamais son nom. Diderot va y défendre une position évidemment très 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 athée, tout simplement, et la maréchale va s'offusquer, on imagine évidemment que la maréchale n'est pas contente. On a Voltaire aussi au 17e, le fameux mot d'ordre « écrasons l'infâme », hein, c'est très violent. Marx, la religion est l'opium du peuple. Nietzsche, Dieu est mort. Et puis, pour terminer en beauté, Freud, la religion est la névrose universelle de l'humanité. Ce qui est frappant, c'est qu'en 2 siècles et demi, 3 siècles, on va avoir une charge d'une extrême violence contre la religion. Et qui va ébranler quand même certains esprits, mais peut-être pas au point où l'avaient espéré les philosophes. Alors, si on veut un peu mettre de l'ordre dans toutes ces critiques...
Je te coupe juste un instant avant de remettre de l'ordre là-dedans. Il ne faut pas non plus occulter... là, c'est l'historien qui reprend sa casquette. C'est la pleine période où c'est le retour de... Où c'est l'arrivée de la science, réellement.
Absolument.
Et qu'on revient sur rationalité ou superstition, etc. C'est-à-dire qu'on commence à expliquer des choses. Et c'est ça qui est assez...
Absolument. C'est très visible chez Spinoza, où il oppose l'esprit rationaliste qui cherche les causes des événements à l'esprit superstitieux, religieux, puisque pour lui, il n'y a pas trop de différence, qui se contente d'admirer les choses, et c'est tellement admirable qu'il faut admettre que c'est Dieu qui les a faites. Voilà. Donc on a effectivement, les critiques que je viens de citer, tu as tout à fait raison, s'inscrivent dans le développement d'un esprit scientifique qui commence au XVIe et qui va aller crescendo jusqu'au XXe siècle. Et toutes ces critiques vont l'accompagner. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Le point d'orgue me semble être ce qu'on appelle le courant positiviste en France, au XIXe, avec Auguste Comte, qui, lui, va faire de la religion un phénomène entièrement dépassé, qui appartient à l'enfance de l'humanité. Et il va aller même jusqu'à proposer de remplacer le catéchisme religieux par un catéchisme positiviste. C'est d'ailleurs une idée qui, quelque part, même si elle n'est jamais dite aussi clairement aujourd'hui, on a un peu l'idée qu'il y aurait un catéchisme républicain. C'est-à-dire que la place laissée vacante par les religions, par les catéchismes religieux, eh bien la République devrait l'investir et... avec un petit côté paternaliste aussi, parfois.
D'où ma question, la politique est-elle une nouvelle religion?
Ah oui, absolument, c'est dans ce sens. On peut se demander si la politique n'a pas, sans doute à tort, mais est-ce qu'elle peut s'en passer? Est-ce qu'elle n'a pas tendance à reprendre les instruments qui ont
bien
permis
fonctionné pendant des milliers d'années?
Absolument, les vieilles recettes.
Évidemment. Et comme j'aime bien le balancier de l'histoire, on est à une période aujourd'hui, et c'est le fil rouge de cette émission qui terminera avec ça, est-ce qu'il y a un retour du religieux ou pas? La science, donc, au XVIIIe siècle, qui vraiment marchait à plein, et c'était un peu la baisse, c'était le début de la baisse du religieux réel, aujourd'hui on est à une période où la science commence à faire peur. Y aurait-il un retour du religieux, peut-être? Dans l'idée de tiens, je me réfugie, on répondra peut-être à la fin, mais
puisqu'on est dessus, enfin justement pour éviter de reporter, je comptais en parler précisément, puisqu'on est sur dans les critiques de la religion, il y en a une qui est intéressante. Et Jacques Lacan, dont on a parlé dans la dernière émission, a prononcé une conférence à Rome, il avait bien choisi son endroit, dont le titre est Le triomphe de la religion. Alors, c'est un texte très court qui est très 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 accessible. Et il dit cette chose avec, évidemment, il prend jamais de gants, Jacques Lacan, il dit « La religion, elle est increvable. » Voilà. D'où le titre « Triomphe de la religion ». Et précisément, c'est pourquoi ce que tu dis m'y fait penser, elle est increvable parce qu'elle s'occupe de donner du sens à ce qui n'en a pas. Or, l'échec des sciences, précisément, de ce point de vue-là, c'est d'avoir retiré toute forme de signification au monde de la nature. Nous savons que si les arbres poussent, ça n'a aucune signification. Ils poussent parce que c'est comme ça. Et je dirais, ils ne font que développer les potentialités de leur biologie. De même, si nous avons des dents, c'est pas pour mâcher, mais nous mâchons parce que nous avons des dents. Bref, la science a instauré un modèle mécaniste dans l'explication de la nature auquel il est difficile d'échapper et qui nous permet de manipuler les phénomènes, mais qui montre que le monde n'a absolument aucune signification. Et en ce sens, Lacan explique très bien que les sciences vont créer une forme d'angoisse que la religion, évidemment, s'empresse de récupérer. Et c'est vrai que la question du sens, et même la question de la valeur qui est tellement à la mode aujourd'hui, on dit les jeunes n'ont plus de valeur, mais c'est peut-être elle-même une question religieuse, la question de la valeur. On pourrait se reporter à Nietzsche cette fois-ci. La question du sens, de la valeur, du but. Sans arrêt, nous interrogeons les gens avec des questions qui ne sont pas du tout neutres, mais qui sont des questions religieuses. Alors après, on s'étonne que les gens finissent par avoir un esprit religieux, mais peut-être qu'on leur a tendu la perche dans ce sens-là, effectivement.
Et l'homme étant devenu un animal dénaturé, comme disait, je crois que c'est Vercors qui disait ça.
Avant Vercors, c'est Jean-Jacques Rousseau. C'est Rousseau. L'homme est il dit l'homme est un animal dénaturé, absolument.
On en est arrivé effectivement à un point où on a tout oublié, avec les guillemets qui vont bien, évidemment, tout aspect de nature. On a besoin d'un retour à
oui,
cette
oui.
nature, la nature originelle ou originale. On revient aux cavernes et la religion.
Dans l'écologie contemporaine, qui pour une part est très saine, parce qu'elle nous alerte sur des dangers réels, la pollution, des catastrophes dont les grandes entreprises se rendent responsables, etc. Ça, il n'y a aucun doute. Mais il y a aussi une part de romantisme avec un retour à la nature. Et il y a, là aussi, pour reprendre un peu ce que tu disais, on a parfois une certaine religiosité dans l'écologie contemporaine.
Absolument.
Qui finit d'ailleurs parfois par rendre les écologistes fatigants. C'est-à-dire que tant qu'on bataille contre les OGM parce qu'ils ont des effets négatifs, contre le nucléaire parce qu'on le voit bien avec Fukushima, ça n'est pas très bon, enfin, etc., il n'y a aucun souci. Mais parfois, il y a un discours sur la nature qui est un peu la mère nature, et on sait dès que la nature n'est plus la nature mais la mère nature, et bien derrière, on a Dieu.
Ben aujourd'hui, vous contestez, enfin, qui que ce soit qui conteste le problème du climat, etc., devient. C'est une secte. C'est la secte de des anti-climats.
On a ici l'esprit sectaire au sens où on a une doctrine qui s'est constituée, qu'il faut suivre.
De nouvelles religions.
Absolument. C'est en ce sens où on peut dire que le mot religion va au-delà des religions instituées et constituées, c'est-à-dire clairement établies avec des textes, qu'ils soient soit des livres canoniques ou des textes pas canoniques. Dans le bouddhisme, vous avez un tas de textes également, comme dans l'hindouisme. Mais on a un esprit religieux, c'est-à-dire qui est l'esprit sectaire, effectivement.
Et le marketing a pas mal récupéré tout ça.
Oui, ce qui montre que la religion avait trouvé un tas de bonnes recettes. Oui. Il faut le reconnaître. Voilà. Peut-être rappeler quand même sur cette critique de la religion. Je vais aller un peu vite, mais au fond, elle est attaquée sur trois plans. Elle est attaquée sur un premier plan, elle est irrationnelle. Bon, j'en ai un peu parlé avec l'exemple de la pierre qui tombe du toit, j'y reviens pas. Elle est aussi attaquée, là, c'est peut-être ce que tu attends davantage, la religion est aussi attaquée en raison de ses connivences avec l'État. Au fond, la religion, pour des penseurs comme Spinoza déjà, Marx bien sûr, Nietzsche en partie, au fond, la religion n'est que le bras armé de l'État, enfin le bras spirituel de l'État. C'est-à-dire qu'il y a toujours une collusion entre le temporel et le spirituel, et la religion, c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé pour amener les hommes à obéir docilement.
L'opium du peuple.
C'est exactement l'opium du peuple. Alors là aussi, je vais peut-être citer le passage de Marx en entier, je l'ai cherché, c'est dans la critique de la philosophie du droit de Hegel. C'est un beau passage qui fait 5 lignes dont on extrait juste ce mot, mais le passage est pas mal. Voilà ce qu'il dit. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit de condition sociale d'où l'esprit est exclu. Elle est l'opium du peuple. L'abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple est l'exigence que formule son bonheur réel. Exiger qu'il renonce aux illusions sur sa situation, c'est exiger qu'il renonce à une situation qui a besoin d'illusions. La critique de la religion est donc en germe la critique de cette vallée de larmes dont la religion est l'auréole. Un peu plus loin, il ajoute, et je m'arrêterai là-dessus, c'est l'État et la société qui produisent la religion. Bien, il n'y a donc pas de doute sur la fonction de la religion, qui est d'endormir le peuple et de lui permettre de vivre dans cette vallée de larmes, qui est d'ailleurs une allusion à la Bible au passage.
Dire, oui.
Et en même temps, c'est l'État qui se sert de la religion. Pour faire court et un peu caricatural, mais il est évident que les gens ont longtemps quand même mal vécu, les conditions économiques, sociales étaient parfois épouvantables, mais quand on leur laisse croire que c'est normal et qu'il y a un bonheur à venir pour plus tard, à condition de respecter les puissants, quand même, l'obéissance dans le décalogue est « tu ne désobéiras point ». Et ce que nous rappelle à la religion, c'est l'obéissance. C'est vraiment très pratique pour l'État. On retrouve aussi, donc sur Marx, c'est l'idée, c'est la deuxième salve de critique contre la religion, c'est au fond un instrument au service du pouvoir temporel. Peu importe Dieu, au fond, tout le monde s'en fout. Le tout, c'est qu'on fasse croire aux pauvres gens qu'il y a un Dieu. C'est ça l'idée quand même. On trouve aussi chez Nietzsche une critique un peu semblable. Alors c'est un peu décalé. Nietzsche attaque surtout ce qu'il appelle la morale judéo-chrétienne. Il dit que, je vais faire très très court, en gros, la morale a rendu les hommes malades. Nous sommes malades de la religion et malades, donc dociles. Et si nous sommes dociles, évidemment, à qui profite le crime ? C'est pas la peine de chercher bien loin. On retrouve, et ce sera ma dernière remarque là-dessus, une idée très proche chez Freud quand il dit que la religion est une forme de névrose. Alors ce qui m'intéresse, c'est qu'on a vu ces critiques, elles sont extrêmement violentes. Elles sont, et tu as raison de le rappeler encore une fois, elles sont assises sur le progrès des sciences. Et pourtant, et on en arrive au dernier point quand même, ces critiques n'ont pas changé grand-chose. Enfin, plus ou moins. Les gens continuent de croire en Dieu, en Allah, en Vishnu, pensent que Jésus est le Messie. Enfin, quelque part, les choses n'ont pas énormément évolué. Mais comment on peut expliquer cela? Alors, il y a une raison qui est celle que Lacan montre bien, c'est que la religion occupe toujours un vide et que les sciences sont incapables d'occuper ce vide. Bon. Alors, est-ce qu'il y a un besoin religieux chez l'homme? Je me garderai bien de répondre à cette question, je n'en sais rien. Mais il est certain que, il y a, chez certains, ce besoin existe. Je pense aussi, c'est que on va se trouver, ces critiques vont apparaître dépassées dès lors qu'on va se mettre à penser la démocratie comme démocratie individuelle où l'individu a le droit d'avoir les opinions qu'il désire. Tant qu'elles ne nuisent pas à autrui, tant qu'elles ne troublent pas l'ordre public. Parce qu'elles sont deux choses un peu distinctes. À partir de là, le débat, ça va être est-ce que j'ai tort ou raison, mais est-ce que j'ai le droit? Et nous sommes des sociétés du droit. Donc la religion va retrouver droit de cité, et je pense qu'elle a aussi profité de cette libéralisation du droit, pour se ramener sur le devant de la scène. Donc on a aujourd'hui, la séparation de la religion et de l'État a pour but de protéger la liberté de conscience. L'État ne doit pas être paternaliste, ne devrait pas l'être, parce qu'il est quand même
il est
souvent,
de plus en plus, peut-être.
Et je crois, nous sommes bien d'accord là-dessus, on a un retour du paternalisme de l'État sur un tas de questions qui autrefois étaient religieuses, qui ne le sont plus, parce que justement, elle n'est plus censée participer au débat public, ou du moins très très discrètement. Donc l'État les récupère.
Le vide est comblé par quelqu'un, toujours.
Voilà, c'est un peu ce qu'on peut craindre. On peut aussi espérer, on peut se montrer positif, tout de même, ou optimiste par les temps qui courent, que les individus sont assez puissants pour éviter qu'on leur bourre le chou, quoi.
Assez voilà. Puissant, c'est pas le mot que j'aurais... Assez éduqué, assez... comment dire, assez libre pour pouvoir juger par eux-mêmes.
Oui, mais la liberté, c'est une forme de puissance. Donc c'est pour ça
c'est pour ça qu'ils sont de moins en moins libres.
Peut-être.
Autre débat, émission. Est-ce qu'on est sur un retour du religieux? Alors, il semblerait.
Écoute, difficile de répondre. Il y a une thèse qui est intéressante, qui est parue en 1985, qui s'appelle « Le désenchantement du monde » de Marcel Gaucher. Peut-être que tu as entendu parler. C'est un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui a été très admiré, très critiqué. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que Gaucher dit « Nous sommes plutôt dans un éloignement définitif de la religion ». Alors, il a pas mal d'arguments, je vais peut-être éviter de les rappeler tous, mais en gros, il arrive à cette idée qu'au fond, une société laïque, dit-il, alors que c'est l'État d'en dire qui est laïque, mais il dit on va vers des sociétés laïques parce que nous sommes tous persuadés, et quelque part, il n'a pas tort, nous sommes tous persuadés que nous devons vivre sous des lois que nous voulons nous-mêmes rédiger et mettre en application. C'est-à-dire, comme je le disais un peu avant, nous sommes tous persuadés que c'est le droit positif qui prime sur le droit divin. Ou les droits de l'homme qui priment sur le droit divin. Mais les droits de l'homme sont eux-mêmes raccrochés au droit positif de toute façon. Et en réfléchissant un peu, je ne sais pas si tu as écouté déjà ce penseur qui est Tariq Ramadan, qui appartient aux Frères musulmans, et qui a des positions parfois très très extrêmes, comme par exemple la défense notamment du voile et de la burqa pour les femmes. Et ce qui m'avait intéressé dans un débat télévisé, c'est que Ramadan s'appuyait sur les droits de l'homme. Et je trouvais que c'était un petit peu un méli-mélo, une salade niçoise, de défendre le droit de porter le voile au nom des libertés fondamentales des droits de l'homme. En même temps, quand on creuse bien, il y a une logique, c'est-à-dire qu'au fond, la religion ne peut à nouveau essayer de réinvestir le terrain qu'à l'aide des instruments de la démocratie. Alors c'est à double tranchant, mais on peut penser que ça montre néanmoins la victoire de la démocratie et la victoire du droit au sens libéral du terme. C'est-à-dire que la religion ne peut plus se faire entendre si elle parle uniquement le langage religieux. C'est-à-dire que Ramadan disait pas « c'est écrit dans le Coran ». Ce qui aurait été logique, il défendait une position musulmane. Ce n'était pas l'argument du tout. L'argument, c'était, c'est un des droits fondamentaux de l'homme. Donc, il renvoyait à ce que sont nos démocraties libérales. Alors, on en pense ce qu'on en veut de ces démocraties. Mais ce qui est intéressant, c'est que même les esprits les plus religieux, et Ramadan l'est certainement, sont obligés d'argumenter avec les instruments de la démocratie et du droit positif ou des droits de l'homme. En ce sens, je crois que Gaucher, avec, alors, quel que soit ce qu'on pense de son histoire des religions, Gaucher n'a pas tort, nous sommes bien dans un dépérissement du religieux. Qui peut-être, justement, comme tu le signalais, ressurgit sous des formes là où on l'attend le moins, à travers une espèce de paternalisme étatique, ou dans le marketing, ou que sais-je, peut-être. Les religions en tant que phénomène institué continuent d'exister, mais elles n'ont plus du tout ce pouvoir d'investir tout l'espace public, d'investir l'histoire. On peut rappeler que longtemps, on ne parlait pas d'histoire, mais on parlait de mythe. Bon, maintenant, c'est l'histoire. Personne n'a l'idée qu'il va connaître l'histoire de l'Antiquité ou la préhistoire en lisant la Bible ou le Coran, enfin bon, sauf quelques illuminés. Mais la religion n'est plus censée nous apprendre ce qu'il faut connaître. Et là encore, je reviens une dernière fois à Spinoza, on peut peut-être boucler là-dessus. C'est Spinoza dit, qui est très équivoque, à mon avis, à dessein. Il dit, le but des religions, c'est de nous apprendre à vivre pour ceux qui y croient, mais en aucun cas de nous apprendre à connaître le monde. Que la religion se cantonne à assurer le salut des fidèles. Mais qu'elle ne leur dise pas que telle vérité existe ou telle autre non. Je crois qu'il sera temps d'arrêter puisqu'on entend...
Les travaux. La religion voilà. Est increvable. Je crois qu'on peut terminer là-dessus. Hein.
Sur cette belle phrase de Lacan, dans le triomphe de la religion.
Merci Gilles Pétel. C'était le deuxième épisode du Point G. Dites-nous si vous avez aimé, si vous en voulez un numéro 3. Évidemment, nous sommes là pour vous. La page Facebook Temporium, bien évidemment. Vous pouvez nous écouter. Nous avons plusieurs émissions, Temporium Radio. Merci à toutes et tous. Après-midi. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stolen many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me, damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg. When I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a tank.